عليه وصحبه وسلم. Brièvement, j'ai préparé cette intervention pour qu'au moins on parte avec quelque chose, Inch'Allah. C'est pour ça, s'il y a des failles dans mon discours, dans cette intervention, ben, je sollicite votre tolérance. Que veut dire mon appartenance à l'islam? D'après mon humble avis, ben, c'est répondre à plusieurs questions. On peut les résumer en 6 questions. Tout d'abord, plutôt 6 niveaux, tout d'abord, il faut que je sois un musulman au niveau de ma foi. Il faut que je sois un musulman au niveau de l'adoration. Il faut que je sois un musulman au niveau de la morale. Il faut que je sois un musulman par rapport à ma famille. Il faut que je sois un musulman par rapport à l'acte et à l'action. Et aussi, il faut que j'aie une vision islamique par rapport à l'avenir. Parce que, comme je vous l'ai dit hier, toute personne qui n'est pas attachée à son passé ne peut pas comprendre l'avenir. Et je vais essayer de vous donner une idée très très simple sur chaque niveau. Et lorsqu'on dit tout d'abord le premier niveau qui est la foi, ça veut dire que c'est le sujet le plus important. La chose la plus importante qui prouve que vous appartenez à cette religion, c'est tout d'abord votre foi. Comment est votre foi? Je vous ai à plusieurs reprises rapporté cet événement d'un bédouin qui est venu solliciter le prophète alayhi salatu salam du Yémen. Et il lui a dit, lorsqu'il entre à la mosquée, il a dit, il est où Mohammed? Dis-moi. Et le bédouin yéménite lui dit, tu nous as envoyé un émissaire et nous a dit que tu es le messager de Dieu. Il a dit oui. Il a dit la vérité. Il a dit, qui a créé les cieux? Le prophète Sassam a répondu, c'est Allah. Qui a aplati la terre? Il a dit, c'est Allah. Il a dit, qui a installé les montagnes? Il a dit, c'est Allah. Il a dit, par celui qui a créé les cieux et la terre et a installé les montagnes, est-ce que Allah t'a envoyé? Et le prophète alayhi salatu wasalam a répondu oui. Et puis, il pose des questions sur la prière de zakat et ainsi de suite. Mais la première question, c'est la divinité. Et le premier sujet que vous devez maîtriser individuellement, c'est la divinité. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala exige de ma part? Quelle est ma relation avec Allah? Comment il est, on n'a pas peur de dire comment Allah subhanahu wa ta'ala est. Et l'approche de l'islam sunnite, de la divinité, se compose, la divinité chez nous, les musulmans sunnites, se compose de 3 éléments. Tout d'abord, vous devez croire. Ce sont de petites idées que vous devez approfondir et lire certains livres de notre école sunnite pour approfondir ce savoir autrement. Vous ne comprendrez jamais cette appartenance que vous devez avoir à l'islam. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala se compose de 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'unicité de ses noms et de ses attributs. Lorsque vous lisez le Coran et vous lisez certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez les comprendre selon l'école du prophète alayhi salatu salam, selon la façon du prophète alayhi salatu salam. Ça c'est le premier niveau, c'est les noms et les attributs. Allah subhanahu wa ta'ala a plus que 99 noms, mais il n'a qu'une seule essence. Et lorsqu'on lit un nom ou un attribut, nous devons croire la signification, nous comprenons la signification de ce nom, mais on n'essaie jamais d'imager cet attribut ou ce nom. Parce que je dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi sur son trône, je sais qu'est-ce que ça veut dire s'établir. Mais je ne donne jamais une image, je ne dis jamais le Seigneur s'est établi sur le trône, il s'est assis. Non, ça c'est quelque chose de... c'est un énorme blasphème. Mais je comprends le sens de ces noms. Lorsque je lis ces noms aussi, je dois me référer par rapport à ses attributs et par rapport à ses noms. Parce que je dis, Allah sait tout, il voit tout, il est partout. Ce n'est pas seulement une approche idéologique. Ça veut dire je sais. L'idéologie, ça veut dire la science des idées. Ce n'est pas al-aqida, ce n'est pas une science des idées. Al-aqida, c'est une science de l'engagement. Lorsque vous dites il sait tout, il voit tout, vous devez vous dire qu'est-ce que je dois être ou je dois faire par rapport à cet attribut. Lorsqu'il a dit, en réponse à certains Arabes, ils ont dit Allah nous entend si nous levons la voix et il ne nous entend pas lorsqu'on parle à voix basse. Il a répondu Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Parlez à voix basse ou à voix haute, il sait ce que vous avez dans les cœurs. C'est ça al-aqida. La foi islamique, c'est elle corrige votre comportement. C'est que vous savez que il sait ce que vous faites. Il entend ce que vous dites. Vous devez, lui, il vous observe et vous regardez sa grandeur. Vous témoignez de sa grandeur. On dit al-mushahada. Contrôler cette présence, c'est que ce que vous faites, ce que vous dites. Le poète a dit, lorsqu'un jour tu es seul, il ne faut jamais dire je suis seul. Mais il y a tout le temps un contrôleur. Un grand savant a voulu tester ses élèves, il a donné à chacun un petit oiseau, il lui a donné, va l'égorger dans un lieu où personne ne te verra. Et tout le monde est venu. Tout le monde est venu, chacun s'est caché derrière un arbre, derrière un rocher, sauf un est venu et son oiseau était encore vivant. Il lui a dit, pourquoi tu ne l'as pas tué? Il a dit, parce que où j'étais, il y avait la présence d'Allah. Il a envoyé les autres élèves aux autres disciples et il a gardé celui-là. Il dit, toi, tu restes avec moi. Et ce petit garçon, avec le temps, est devenu le savant et du Maghreb et le savant d'Égypte. C'est un éminent savant, très grand savant. Pour vous dire que vous allez, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, je vous donne seulement des exemples, il a déjà décrété votre subsistance et que votre portion sur terre, votre début et votre fin sur terre est déjà prescrit. Vous ne pouvez ni ajouter ni rétrécir. Donc, que doit être mon comportement à travers ces deux idées? La première, je dois être positif et je dois gagner ma vie de la meilleure manière. Halal, parce que je vais gagner ce que Allah m'a décrété. Et si j'ai une confiance sur cette valeur qu'il m'a accordé ma subsistance, je ne dois jamais approcher le côté haram, côté néfaste, interdit. Le fait de voler, de tricher, ce n'est pas une mauvaise moralité, mais c'est une mauvaise foi de la personne. Deuxième niveau de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de croire qu'il est le seul maître. Il est le seul maître. Ar-Rabb. Et vous cherchez, l'homme cherche à être parfait. Vous cherchez en se maquillant, en s'habillant, ainsi de suite, vous cherchez, même si vous ne le dites pas, vous cherchez à être la meilleure, la plus belle, la plus forte, et ainsi de suite. Parce que tout le monde cherche ce sens d'être parfait, la perfection. Mais que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nous devons y croire que la perfection totale provient de lui. Donc ce qu'il fait, ce qu'il a décrété, c'est la perfection. Le fait de croire qu'il est le maître, le maître ne peut faire que ce qui est meilleur. C'est ainsi que cette idée de Dieu, comme quoi il nous a créés, il nous a abandonnés, et qu'il nous a créés, il a créé un homme pour nous pardonner, soit qu'on ait créé le fruit du hasard, et il nous a créés tout d'abord en étant des singes, et après il a parfait sa création, jusqu'à ce que nous devenons des hommes et ainsi de suite, ou lorsqu'il y a un événement quelconque sur Terre, une catastrophe sur Terre, on dit, mais si Dieu existe, pourquoi il a fait ça? Ben, toutes ces comportements de la mauvaise éducation spirituelle, pour un musulman, c'est quelque chose de, pour lui, de complètement fini. Et il ne peut jamais contester les décrets divins, ni la sagesse divine, parce que le fait d'être le maître, Ar-Rabb, ça veut dire c'est la perfection. Seulement on n'a pas compris. On n'a pas compris la grandeur de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il fait est le meilleur. Et spécialement pour cette communauté, lorsqu'on se réfère sur ce verset coranique qui a dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » Aujourd'hui, j'ai parfait pour vous votre religion, ça veut dire que cette religion est parfaite. « Wa atmamtu alaykum ni'mati » et j'ai comblé mes bienfaits sur vous, « wa raditu lakum l'islam madina » et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion, ça veut dire que rien ne peut se faire pour cette communauté qui est néfaste de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est meilleur, tout est bien. Même si elle entre dans une crise, mais on sait bien qu'à travers cette crise, il y aura son salut. Donc c'est la première chose. La première chose que vous devez maîtriser, c'est cette foi islamique. Troisième niveau, c'est le niveau d'adoration, et je vais le traiter par la suite. Un jour, il était avec Mu'ad. Il lui dit, Mu'ad, quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Quel est son droit? Et Mu'ad n'a pas su répondre. Et qui saura répondre à cette question? Et le professeur s'est répondu, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans lui associer quoi que ce soit. Et puis, il a repris son voyage. Et après un moment, il a dit, quel est le Mu'ad? Quel est le droit des serviteurs sur Allah? Et celle-là est beaucoup plus difficile à répondre. Beaucoup plus difficile. Parce que le droit d'Allah sur nous, ça se comprend. Mais notre droit sur Allah, ça c'est difficile à comprendre. Mais pourquoi c'est difficile? Parce qu'on n'a aucun droit. Le fait de dire droit, c'est imposé. C'est obligé. Et on ne peut pas obliger Allah. On ne peut pas le contraindre, on ne peut pas le forcer. J'ai dit, j'ai mon droit sur toi, c'est-à-dire je t'impose mon droit. Personne ne peut imposer Allah. Mais si le prophète ﷺ s'est exprimé ainsi, c'est seulement pour nous honorer de cet équilibre, de cette relation binaire entre nous et le Seigneur. C'est comme nous sommes en relation face à face. On sait bien qu'il n'y a pas de relation face à face, il n'y a aucun droit. C'est celui qui a tous les droits et nous, on a seulement les bienfaits. Et là, dit, quel est le droit des serviteurs sur Allah? À ce moment-là, Mu'ad a dit, Allah wa Rasuluhu a'lam. C'est Allah et son messager qui le savent. Moi, je suis ignorant. Et le prophète alayhi salatu salam, a répondu, il a dit, leur droit sur Allah, c'est il leur accorde le paradis. S'il l'adore. Troisième niveau de la foi, c'est la deuxième obligation, c'est l'obligation de l'adoration. Avant d'agir, avant de faire, avant de pratiquer cet islam, vous devez préalablement, comme je viens de vous le dire maintenant, comprendre les fondements de cette religion. Si aujourd'hui on chute de temps en temps, si aujourd'hui on fait des fautes, ce n'est pas, peut-être je le répète, c'est justement parce qu'on n'a pas cette foi enracinée, cette foi inébranlable qui nous protège. Et surtout au moment des agressivités. Donc vous devez tout d'abord attaquer ces livres islamiques que vous devez acheter pour consolider votre foi. La relation que vous devez avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas seulement une relation de soumission, d'humiliation totale, non. Mais vous devez l'aimer. Vous devez aimer ceux qui vous adoraient. Ibn Qayyim a dit un jour, durant le 8e siècle de l'Égypte, il a dit, malheureux sont les imams d'aujourd'hui, durant leur sermon, ils ne font que faire peur aux gens. C'est-à-dire l'enfer. Mais normalement, ils doivent parler de Dieu. Ils doivent parler du tawhid et faire aimer Allah auprès de ses serviteurs. C'est ça le vrai message que vous devez avoir. C'est comment aimer Allah. Parce que si vous l'aimez, à ce moment-là, vous allez protéger cet amour par tous les moyens afin de ne pas chuter. La foi aussi, c'est comprendre les six piliers de la foi. Vous savez que lorsqu'on devient, par exemple, on se convertit à l'islam, on est musulman. C'est-à-dire l'extérieur, l'apparence, ce que les gens peuvent constater. Mais le niveau supérieur, c'est al-mu'minun, al-iman, la croyance, être un croyant. Et ça exige de votre part le respect de six piliers de la foi. Arkanul iman, arkanul islam khamsa. Les piliers de l'islam sont cinq. Les piliers de la foi sont six. Ben vous devez maîtriser tout ça. Premier pilier de la foi, c'est croire en Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, c'est attester. Ashhadu. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah. C'est la bouche qui parle. La foi, c'est le cœur qui part. C'est que le cœur qui part, qui croit en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous ai dit l'autre jour que ce cœur qui parle doit parler avec des conditions. Et cette condition, c'est l'aimer, c'est la certitude, c'est la sincérité, c'est l'acceptance, c'est qu'elle soit véridique, c'est la soumission, et ainsi de suite. Il ne suffit pas de dire « Ashhadu an la ilaha illallah ». Il ne suffit pas seulement de le dire, mais il faut tout d'abord être sincère. Et il faut tout d'abord être véridique. Et il faut l'accepter. Et il faut se soumettre. Et il faut l'aimer, et ainsi de suite. On appelle les conditions de la ilaha illallah. Donc si vous devez maîtriser ce sujet, allez sur internet et tapez conditions de la ilaha illallah. Comme ça. Et vous allez voir. Vous allez voir cette condition. Croire aux anges. Le fait de croire aux anges, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des créatures qu'Allah a créées après. Je n'ai rien à faire avec ces anges-là. Non. Ils sont là, à côté. Ils sont tout le temps avec toi. Et ils inscrivent. Avant les ordinateurs, avant les calculatrices, il y avait déjà des plumes que tenaient ces gens. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. À la prononciation de chaque mot, il est inscrit par raqib et atid. On dit que ce sont des noms et on dit que ce sont des adjectifs, c'est-à-dire des contrôleurs stricts. N'oublie rien. Et ces gens-là, c'est comme, vous connaissez les badges d'aéroport. Il y a certains anges qui ne peuvent entrer à tous les lieux. L'ange Gabriel lui-même, il ne peut pas entrer dans tous les lieux. Dans un lieu où il y a un chien, par exemple, l'ange Gabriel ne peut pas entrer. Si vous voulez que l'ange Gabriel ne vienne jamais chez vous, ben, faites entrer un chien. Il ne viendra jamais chez vous. Mais un jour, il est venu visiter le professeur Hassan, mais il n'a pas pu. Et ses rendez-vous, c'est à la seconde près, et le professeur attendait, et à un moment, il sortait, et il a trouvé, il dit, entre. Il dit, non, je ne peux pas entrer. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu as un chien chez toi. Et on a cherché, et on a trouvé un petit chien dans la maison du prophète. Mais ces gens, ces deux anges qui inscrivent, c'est partout. Un de nos savants a dit, même si vous entrez dans le ventre d'un mulet, il suivra. Il vous suivra et il va inscrire ce que vous avez fait. Au moins, si la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala vous fait défaut, vous n'imaginez pas sa présence, faut que vous sachiez qu'il est là à côté. Ça fait attention. Ça, c'est parmi les valeurs des anges. Les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, brièvement, les livres, Allah a envoyé des messagers avec des livres, nous devons croire que dans ces livres, il y a une vérité, mais il y a aussi des mensonges, et que le livre que nous devons maîtriser, nous devons lire, nous devons suivre, nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ce livre. Tu veux bien. C'est le Coran. Si un jour ça vous intéresse, ça, j'ai donné un cours avec les sœurs il y a très longtemps, c'est-à-dire une étude biblique. Et il y a certains qui disent, vous dites qu'il y a de la falsification dans les livres, et ça, nous le croyons à 100%. Et si ça vous intéresse, on peut le traiter un jour. C'est pas un sujet très intéressant pour nous, mais si ça peut vous dire un jour, on peut traiter un jour, mais il y a des erreurs monumentales. Mais il ne faut pas dire que ces livres, dans leur totalité, sont faux. Ça, c'est aussi un mauvais comportement. Non, il y a de la vérité, mais il y a aussi de l'erreur. Croire aussi au prophète, croire aussi au jour du jugement dernier, et croire au destin. Et tous ces six piliers, ils ont tout un discours, toute une leçon, toutes des leçons, et je vous parle seulement brièvement de chaque pilier parmi les piliers de la foi. Donc, Allah, les anges, les livres, les prophètes, le jour du jugement dernier et le destin. Votre appartenance à l'islam, donc votre première obligation donc, c'est la foi. Vous devez. Donc, je suis en train de vous dire vos cahiers de charges, vos obligations par rapport à cette religion. Première chose que vous devez comprendre, c'est al-aqida, la foi islamique. Deuxième chose, al-ibada, l'adoration. L'adoration, la raison de l'existence de l'homme sur terre, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a deux façons d'adorer Allah. Il y a la façon juridique, c'est-à-dire celle que le prophète alayhi salatu wasalam nous a rapportée à travers le livre et à travers la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Ça là, c'est le premier niveau. Il nous a ordonné de faire, on fait. Il nous a interdit de ne pas faire, on ne fait pas. Soit Allah, soit le messager. Et le prophète complète le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a jamais eu de contradiction entre ce que le prophète a dit et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. La sunna, c'est seulement pour compléter ou pour éclaircir ou pour détailler le Coran. Le Coran, ce n'est pas un livre de loi. Ce n'est pas un livre de détails. Non, le Coran, c'est un livre de guidance. Il y a des règles générales. Et la sunna est venue, elle a détaillé, ou elle a éclairci, ou elle a rétréci le message coranique. L'adoration en islam ne se fait, ou plutôt, on adresse l'adoration qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Première chose que vous devez savoir, maîtriser, qu'on adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai oublié de vous dire le deuxième niveau, je m'excuse, ça c'est ma grippe et c'est sa faute, celui qui m'a obligé de venir. Donc, premier niveau, c'est l'adoration juridique, c'est-à-dire le texte, le Coran et la Sunna. Deuxième niveau d'adoration, c'est l'adoration d'une manière générale. C'est-à-dire, le premier niveau, c'est Allah qui a fixé, ou son messager qui a fixé l'adoration. Mais le deuxième, c'est vous qui décidez l'adoration. C'est tout ce qui est licite. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété sur terre comme licite, il vous a accordé ce domaine. Si vous voulez, vous pouvez l'adorer. Si vous ne voulez pas, vous pouvez le faire ou le consommer. C'est pour votre plaisir. Mais si vous voulez, ça peut être une adoration. Et ça, c'est le grand domaine de l'adoration. L'adoration juridique, elle est très limitée. L'adoration générale, c'est tous les domaines de la vie. Vous faites des études. C'est quelque chose de licite. Pourquoi vous faites des études? Soit vous dites, je veux faire un poste et gagner de l'argent, et ainsi de suite, et ça c'est pour vous. C'est halal, c'est pas interdit. Je veux être un médecin et je veux être riche. Et rouler avec une Porsche. C'est bon. Qu'Allah vous donne le succès. Vous pouvez réussir. Et ça, c'est comme le font tout le monde, et les gens réussissent sur terre, ils ont leur Porsche, ils ont leur ceci, cela, parce que ils font un effort et ils réussissent. Mais vous aussi, vous êtes parmi ces gens-là. Mais si vous voulez être quelqu'un d'exceptionnel, c'est que vous faites le même effort, les mêmes études, la même médecine, et vous aurez la même Porsche, mais seulement il faut dire, je le fais pour Allah. Et à ce moment-là, même cette chose licite devient une adoration. Chaque œuvre que vous faites pour réussir et concrétiser ce vœu devient un acte d'adoration. Donc chaque... Ici, c'est devant moi. Et tout le temps jusqu'à la fin de l'année. Et ça, c'est... Si vous voulez dire tout à l'heure dans la fin de l'année. Donc ça, c'est l'adoration générale. Et c'est vous qui fixez. Donc tout ce que vous faites, ayez cette facilité que dans tous les domaines de votre existence, avant de les commencer, chaque activité, dites c'est pour Allah. Ça c'est pour Allah. Ben, croyez-moi, ça c'est les questions après. Ça vous pouvez, votre compteur ne s'arrêtera jamais. Jamais, 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 jamais. Comment notre adoration peut être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas facile qu'elle soit acceptée. Mais si vous remplissez quelques conditions, si vous respectez des conditions, elle peut être acceptée. Vous dire que la grande chute de l'humanité au domaine de la religion, c'est au niveau de l'adoration. Il y a beaucoup de non-musulmans qui adorent. Il y a certains qui adorent mieux que les musulmans. Et malheureusement, la conséquence, moi je crois, la certitude, que le fruit de cette adoration, c'est zéro. C'est-à-dire la récompense sur terre. Mais la récompense du jour du jugement dernier, selon la foi que je connais, ben c'est zéro, il n'y a rien. Parce que selon la version islamique, ben il faut que cette adoration respecte quelques conditions. La première chose qu'il faut respecter, c'est l'exclusivité de l'intention. Al-ibada lillah. Lorsque vous adressez cette adoration, juridique je veux dire, juridique, vous devez l'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, en faisant la prière de funéraire, il y a l'imam, notre collègue albanais, qui a prononcé, je ne sais pas, est-ce que vous n'étiez pas, il a prononcé une formulation, nous faisons la prière du mort à la mosquée de Genève, à 7, et un musulman derrière, il a dit, et nous t'acceptons comme imam. Ah, ça ne se fait pas. Ça, c'est quelque chose d'innovation. Ben, je vais essayer de le dire, de ne plus faire ce genre de choses, parce que la sincérité, c'est dans le cœur, ce n'est pas dans la bouche. On fait une adoration pour Allah, c'est le cœur qui doit la formuler. C'est le cœur qui doit s'adresser Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'adoration pour Allah. Et si vous avez un défi quelconque, si vous avez un ennemi qui peut vous agresser, qui peut vous condamner, vous faire chuter tout le temps, ben c'est l'hypocrisie. Ça c'est votre ennemi juré. C'est le fait de montrer ce que vous n'avez pas. Le fait de montrer aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux hypocrites, ils sont vos ennemis. Mais l'hypocrisie, c'est notre ennemi. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, la chose que je crains pour ma communauté, que je crains le plus pour ma communauté, c'est l'arrogance. C'est ça, c'est le vrai ennemi de chaque musulman. Je souhaite que tout le temps, vous vous mettez en valeur. Okay? Pourquoi je fais ça? La règle, si vous voulez savoir, est-ce que vous êtes plus proche de la sincérité ou de l'arrogance, c'est juger votre comportement en public et en secret. À vous de faire cette comparaison. Si vous êtes en secret comme en public, ben dites Alhamdulillah. C'est vous approchez du but. Si vous voulez le moyen pour être sincère, le vrai moyen, je peux vous dire le meilleur moyen pour cultiver, fructifier la sincérité, c'est la prière de la nuit. La prière du vendredi, la prière de... Les activités, tout ça, on peut les faire avec les autres. Mais celles que vous faites avec Allah à 100%, ben c'est la prière de la nuit. Deuxième condition de la prière, de l'adoration, c'est l'adoration doit être liée avec le texte. Ça veut dire qu'on ne peut faire aucune adoration sans un fondement, soit du Coran, soit de la Sunna du Prophète. En langue arabe, on dit al-ibada tawqifiyya. L'adoration, il faut tout le temps s'arrêter avant de faire l'adoration. C'est ça le sens, la traduction littérale. Il faut s'arrêter avant de faire l'adoration. Si je pars un jour de cette mosquée et j'ai laissé dans votre cœur ce dépôt immense qui est cette petite notion, qui est ne pas faire aucune adoration sans la preuve, je crois que j'ai réussi. Ça veut dire on ne fait rien. Aucune. Si la personne que vous aimez le plus, votre père ou votre mère, vous demande de faire quelque chose au niveau d'adoration, vous devez gentiment lui dire c'est quoi la preuve. C'est-à-dire vous devez, avant de faire quoi que ce soit dans l'islam, avoir le feu vert. Et le feu vert ne peut venir que du texte. C'est-à-dire une preuve textuelle. Jamais l'humain. Moi, je ne suis pas une preuve. Malheureusement, pour certains frères, on leur dit, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, mais c'est Cheikh X qui a dit qu'il a fait ça. Mais Cheikh X n'est pas une preuve. La preuve, c'est le prophète. La preuve, c'est le Coran. Ça, c'est une règle fondamentale. Aujourd'hui, on dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est notre école. C'est l'école. Notre école juridique, dans notre pays qui a fait. Ou mon imam, ou ceci. Non, ça c'est l'islam des hommes. Mais l'islam du prophète, alayhi salatu wasalam, c'est le texte. le texte. C'est-à-dire, je ne fais que. C'est pour ça, bientôt je vais vous dire d'autres conditions concernant l'adoration. Et Inch'Allah, vous allez maîtriser beaucoup plus cette question d'adoration. Parmi aussi les principes d'adoration, c'est sans intermédiaire. Il n'y a aucune adoration avec intermédiaire en islam. L'islam est venu, il a boycotté tout intermédiaire. Il n'y a rien. Absolument aucun intermédiaire. Il y a des choses qui nous échappent dans le comportement et ce sont des erreurs de comportement individuel. Vous avez fait une faute. Vous avez fait une faute et voilà, mon frère ou mon imam ou quoi que ce soit ou ma soeur, voilà, j'ai fait une faute. Qu'est-ce que je dois faire? Et l'autre dit, qu'est-ce que tu as fait? Là, j'ai fait. Ben, ça, c'est la faute de... Ça, c'est une faute au niveau de la foi islamique. Ça, on dit à personne. J'ai fait la faute, c'est avec Allah. Il n'y a pas de confession à personne. À quiconque. Je ne me confesse à personne. Si je demande une question, ben, oh, je la demande avec un moyen de quelqu'un. Quelqu'un a fait, qu'est-ce qu'il doit faire? D'accord, ça se comprend. Mais avouer nos erreurs pour quelqu'un, ben c'est une faute en islam. Je n'avoue à personne. Normalement, on doit avouer à Allah. Et Allah n'a pas besoin d'aveu parce qu'il sait déjà ce que nous avons fait. Il y a certains qu'ils ont pris leurs imams comme intermédiaires avec Allah, comme ces groupes soufis malheureusement dans nos pays islamiques. Ils disent quand tu demandes Allah, il faut que tu te rappelles le visage de ton imam. Et comme ça, il va t'aider à ce que ta prière va être acceptée auprès d'Allah. Tout ça, ce sont des erreurs monumentales. Donc, vous n'avez besoin de personne. Vous n'avez besoin de personne. Je vous ai donné cet exemple coranique lorsque les gens posaient des questions au prophète alayhi salam sur l'alcool, sur l'orphelin, sur l'aumône, sur... Et plusieurs questions, la réponse venait d'Allah, dis-leur. Mais lorsqu'ils ont posé la question sur Allah, quelqu'un est venu, il a dit, est-ce que Allah est loin et on l'appelle à voix haute, ou il est tout proche et on l'appelle à voix basse? Le Coran n'a pas dit, dis-leur. Non. Il a dit, et si mes serviteurs te demandent où suis-je, je suis tout près d'eux. Ça veut dire que Allah n'a pas besoin d'intermédiaire auprès de ses serviteurs. Parmi les principes de l'adoration, c'est le juste milieu, c'est-à-dire l'équilibre, sans excès. Les excès ne font pas partie de l'islam. Tout cet excès dans l'adoration, l'excès dans le comportement, ne fait pas partie de l'islam. L'islam, c'est le juste milieu. L'islam, c'est une religion naturelle. Tout comportement qui écrase ce juste milieu, ben vous devez le condamner normalement. Un jour, trois personnes sont venues chez le prophète, alayhi salatu wassalam, et on a demandé sur son comportement. Et lorsque Oumul Mu'minin a répondu, il faisait, ils ont trouvé qu'il ne faisait pas assez. Ils ont trouvé qu'il... Et l'un a dit, moi je vais divorcer ma femme. L'autre a dit, moi je vais jeûner tout le temps. Et l'autre a dit, moi je vais faire la prière tout le temps. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a entendu cette parole, il s'est fâché. Il a dit, Wallah, je suis le meilleur auprès de vous, et le plus pieux, et celui qui craint Allah le plus. Mais moi, je fais ma prière et je me repose. Je fais le jeûne et je mange. Et j'approche mes femmes, celui qui ne veut pas de ma voix, il ne fait plus partie de ma communauté. Donc c'est ça le juste milieu de l'islam. L'excès dans tous les domaines de la foi islamique, ce qui vous propose la difficulté, lorsque le prophète alayhi salatu wasalam était devant deux choses, l'une facile et l'autre difficile, il avait tout le temps, prenez la facilité. L'islam, c'est la facilité. Tout le temps. Si vous avez deux comportements avec des preuves authentiques, les deux, et l'un ne prédomine pas sur l'autre, ben vous devez prendre la facilité. Pourquoi ? Parce que ben c'est la facilité qui est le chemin du prophète, alayhi salatu wasalam. Et il a dit, Bashiru wa la tu'assiru, informez la bonne nouvelle avec facilité et ne prenez jamais la difficulté. C'est pour ça que je souhaite aussi que votre comportement soit un comportement facile. Parce qu'il a dit que la facilité, elle fait arriver et la difficulté, elle fait casser. Celui qui cherche la difficulté, ben il n'arrivera jamais. L'adoration aussi, comme je vous l'ai dit, l'adoration est l'ensemble de toute la vie. Ce n'est pas seulement l'adoration dans la mosquée, l'adoration dans la zakat, dans le ramadan, non. L'adoration, c'est dans tous les domaines de la vie, et c'est cette adoration que je vous ai dit, générale, c'est vous qui devez la maîtriser. Al-ibad, condition sine qua non pour qu'elle soit acceptée. Il faut respecter six choses. Tout d'abord, la cause de cette adoration, elle doit être fondée. Avant de faire une adoration, il faut qu'elle soit fondée. Prenons l'exemple de la fête de la naissance du prophète, alayhi salatu wasalam. Il y a certains qui font la fête du Mouloud. Non, on ne fait pas la fête du Mouloud. On dit que vous n'aimez pas le prophète. On répond, on l'aime plus que nous-mêmes, plus que nos parents. Mais pourquoi vous ne faites pas la fête du Mouloud ? Il dit, parce que lui n'a pas fait la fête du Mouloud. La naissance, son anniversaire. Lui n'a pas fêté. Ben moi, je ne fête pas. Ses frères qui l'aimaient le plus, ils ne l'ont pas fêté. Non, on ne le fait pas. La première génération ne l'a pas fêté. Nous, on ne le fait pas. La deuxième ne l'a pas fêté. Nous, on ne le fait pas. La troisième ne l'a pas fêté. Nous, on ne le fait pas. La quatrième ne l'a pas fêté. Nous, on le fait. La cinquième ne l'a pas fêté. Ben, à vous deux. Donc, c'est au sixième siècle de l'Égypte qu'un calife chiite a fait la première fête du Mouloud. Donc nous, on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que la cause n'est pas fondée. C'est ça. Il faut que la cause soit juste et valable. La naissance n'est pas une cause. La fête, la Eid al-Fitr du Ramadan, on fait la fête. Pourquoi on fait la fête ? Parce que la cause est fondée. La prochaine fête, qui est la fête du sacrifice, que nos frères disent la fête du mouton, oui, on va égorger le mouton, ils vont faire sa fête, mais normalement c'est la fête du sacrifice, mais c'est une cause fondée. C'est une cause, c'est pour ça qu'on le fait. Ben, toute adoration qui n'a pas de fondement, on ne le fait pas. Et c'est ça. Et si vous voulez un peu piéger toute personne qui vous invite à faire une adoration, dites-lui quelle est la cause. Est-ce que la cause de cette adoration est fondée ? Elle est où ? Et à défaut, on dit seulement parce que, ainsi de suite. Rien, aucune preuve. Deuxièmement, c'est l'origine de la chose, l'origine même de l'adoration. Il faut qu'il soit fondé. L'islam, la fête du sacrifice, l'islam nous a enseigné qu'il faut égorger un bétail, c'est-à-dire un mouton, une vache ou un chameau. Mais si quelqu'un veut égorger un cheval, on dit non, c'est faux. Pourquoi ? Parce que l'origine même de cette adoration n'est pas fondée. Soit tu égorges un mouton, soit un cheval, soit une vache, soit un chameau, mais le cheval il n'est pas fondé parce que l'origine même de la chose n'est pas fondée. La quantité, la troisième condition, c'est la quantité, le nombre. Si quelqu'un, par amour à Allah subhanahu wa ta'ala, a voulu faire la prière à l'asr, 6 raka'at, ben ce n'est pas valable. Parce que 6 n'est pas fondé. Il faut se limiter à 4. La manière, la façon de faire cette adoration aussi, il faut qu'elle soit fondée. Si vous faites les ablutions, vous savez que les ablutions, on commence par les lieux les plus propres aux lieux les plus sales. C'est-à-dire on commence par le visage et on finit par les pieds. C'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné. Plutôt, mais si quelqu'un a commencé par les pieds, c'est-à-dire il a fait la même toilette, mais à l'envers, est-ce que ses ablutions sont justes? Non, ce n'est pas juste. Il a fait étaler l'eau sur tout le corps, le même corps, mais vu que la manière n'est pas celle qui est fondée, ben cette manière n'est pas valable. La cinquième condition pour l'adoration, c'est le temps. Ce que je vous dis maintenant est d'une extrême importance dans votre approche à l'islam. Le temps, et sixièmement, le lieu. Il faut que le lieu de l'adoration, si vous allez choisir un temps d'adoration, il faut que le temps soit fondé. Si quelqu'un a dit, moi je vais partir en vacances, bientôt le ramadan va être l'été, il dit, moi j'ai réservé mon mois de ramadan, et il tombe sur mes vacances, moi je vais passer mes vacances, je ne sais pas où c'est chez elle, je vais avancer le ramadan. Je vais avancer le ramadan, comme ça je vais passer. Ben non, c'est faux, parce que le ramadan c'est le huitième mois lunaire. C'est-à-dire ramadan, c'est ramadan. On ne peut pas faire un mois en avant et on ne peut pas faire un mois après. C'est un mois qui commence par un début et une fin. La dernière chose, c'est le lieu. Il faut que le lieu de l'adoration soit fondé. C'est-à-dire, nous avons une mosquée. C'est le lieu de l'adoration. Quelqu'un crée un club concurrent de la mosquée. On dit ce lieu concurrent, ben, il n'est pas acceptable. On a fait une mosquée ouverte à tout le monde. Si c'est un jour un directeur de la mosquée ici dit, cette mosquée est réservée aux maghrébins, on n'a plus le droit de venir à cette mosquée. Parce qu'elle devient un club. Donc, tout lieu qui est réservé à une nationalité, à une idée, et ainsi de suite, c'est la concurrence à une mosquée. C'est pour ça qu'il faut les abandonner. Il n'y a que dans la mosquée qu'il faut adorer Allah publiquement. C'est le seul lieu. Et auprès des musulmans, auprès des jeunes, lorsqu'ils voulaient adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils venaient aux mosquées. Ils n'allaient pas dans des lieux comme ça, en cachette, en privé, et ainsi de suite. Non, jamais. On donne aussi l'exemple du lieu, c'est le pèlerinage. La Mecque, c'est le seul lieu où on fait le pèlerinage. Si quelqu'un décide d'aller faire une activité quelconque, une visite religieuse quelconque à un pays qui n'a pas de lieu fondé en islam, ben on ne fait pas cette adoration. Il ne faut pas faire de voyage religieux qu'aux trois mosquées. On n'a pas le droit d'aller faire un voyage spirituel, c'est pas à Fès, il y a ceux qui font le voyage à Fès. Parce qu'il y a la tombe d'un grand cheikh qui est le cheikh Tijani. Je ne sais pas ce que vous connaissez ou non, mais c'est pour cette confrérie, cette ville, c'est la Mecque. Il faut tout le temps aller visiter la tombe du cheikh. Il y a ceux qui vont par exemple à Mostaganem, en Algérie. Il y a ceux qui vont en Syrie pour visiter le cheikh Naqshbandi. Il y a ceux. Ben, tout ça c'est faux. Le voyage spirituel ne doit se faire qu'à trois mosquées. Le voyage spirituel. Vous avez le droit de faire les vacances où vous voulez. Mais le voyage religieux ne se fait qu'à trois lieux. La Mecque, la mosquée de la Mecque, la mosquée de Médine et la mosquée Al-Aqsa. C'est-à-dire de Jérusalem. Ce sont les trois lieux où il faut prendre ses bagages et dire je vais faire le voyage. Donc ce sont les trois lieux d'adoration. Ben imaginez quelqu'un, le pèlerinage se fait dans une plaine qui s'appelle la plaine de Arafat. Quelqu'un veut faire Arafat quelque part. Ben son pèlerinage n'est pas valable. Donc six conditions, c'est la cause, l'origine, la façon, la manière, la quantité, le temps et le lieu. Pour que votre adoration soit accepté. J'ai traité brièvement votre obligation dans le domaine d'adoration, dans le domaine de la foi et dans le domaine d'adoration. Troisième obligation qui vous incombe pour appartenir à l'islam, c'est dans le domaine de la moralité. Il faut que vous ayez une moralité qui n'est que la conséquence des deux éléments précédents. Si quelqu'un a une foi inébranlable et il a une adoration sûre, il doit dégager un fruit. Le fruit de l'adoration. Lorsque le monsieur foi se marie avec madame adoration, ils doivent enfanter la moralité. Si vous n'avez pas de moralité, ça veut dire que votre foi ou votre adoration ou toutes les deux ne sont pas valables. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'exemple. Il a dit, plutôt un jour le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, il y a un arbre, ils étaient à Médine, il a dit, il y a un arbre ses feuilles ne tombent pas. Et c'est l'exemple du croyant. Tous les compagnons ont commencé à penser, à réfléchir, quel arbre, personne n'a trouvé. Ils étaient à Médine. Ils n'étaient pas ailleurs, ils étaient à Médine. Personne n'a su de réponse. Et le prophète Hassan a dit, c'est le dattier. Le dattier, le plafond de Médine était fait par des branches de dattier. Donc ils avaient seulement la possibilité de lever leur visage. Mais à Médine, jusqu'à aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de dattiers. Mais ils n'avaient pas pensé au dattier. Il a dit, c'est l'exemple du croyant. Cet exemple, il est tiré du Coran. Allah a dit dans Surat Ibrahim, n'avez-vous pas vu la parabole qu'Allah vous donne à une bonne parole? Kalimatan tayyiba, la bonne parole, elle ressemble à un arbre. Asluhu thabit, les racines sont profondes et les fruits sont très hauts dans le ciel, qui donne ses fruits à qui il veut. Enfin, ça, c'est l'exemple du croyant. Il a une foi solide, ne se met jamais en doute, ne jamais douter dans sa foi. Et il a une pratique sûre, et tout ça donne une bonne moralité. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, Dieu ne m'a envoyé que pour parfaire la bonne moralité. Et des fois, ce prophète alayhi salatu wa sallam nous étonne du niveau de la moralité qu'il avait. Des fois, nous, malheureusement, nous, sans exception, on chute dans des choses tellement simples et bénignes, et après, on a du mal à comprendre pourquoi on a chuté. Lorsqu'un homme, un bédouin arrive, le prophète, alayhi salatu wasalam, avait un habit qui était très dur. Il le tirait par ses habits, tellement il a tiré fort que le cou du prophète, alayhi salatu wasalam, a été gratté, il était tout rouge. Et les compagnons, ces garde-corps du prophète, alayhi salatu wasalam, par amour, voulaient se venger de ce bédouin. Il a dit, calmez-vous. Et il s'est tourné vers le bédouin. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, donne-moi de l'argent. L'argent qui n'appartient ni à ta famille, qui n'appartient ni à toi, ni à ta famille. C'est quelque chose de mauvais de dire. Oui, il n'a pas bougé, il n'a rien dit. Il s'est adressé à son cousin, il a dit en lui, l'argent qui n'est ni le mien, ni celui de ma famille. Et à la fin, on a dit, il a dit, mais pourquoi tu t'es pas mis en colère? Il a dit, si je me suis mis en colère, il sera à l'enfer. Lui, c'est un ignorant. Quelqu'un qui ose uriner dans la mosquée. Et tout le monde a voulu se jeter contre lui. Lui, il dit non, laissez-le continuer. Un jour, il mangeait par terre. Et une femme passe devant lui avec ses compagnons. Il mangeait avec ses compagnons. Il était assis par terre. Et une femme, quand ça passe, une mécréante, il dit, regardez-le. Il mange, il s'assoit comme un serviteur et il mange comme un serviteur. Et le prophète sourit, il dit, oui, c'est vrai, wallah, je mange comme un serviteur et je m'assois comme un serviteur. Ben imaginez que ce... Imaginez-nous dans ce genre de choses. Il a dit, oui, c'est vrai, je ne mange que comme un serviteur, pas comme un roi, ni un empereur, ni un despote, non, au contraire. Imaginez quelqu'un qui a subi l'atrocité de son peuple. Il était jeté de chez lui durant des années, et lorsque la revanche et la vengeance commençaient, étaient possibles et probables, ils étaient rassemblés ici, devant. Ils étaient tous devant lui. Et il leur a dit maintenant que, ô vous les habitants de la Mecque, qu'est-ce que vous croyez que je vais faire de vous ? Vous avez tué, vous avez assassiné, vous avez volé, vous avez violé, vous avez. Qu'est-ce que vous croyez que je vais faire de vous ? La vengeance, des fois, on peut la sentir comme quelque chose de normal, tellement on a subi beaucoup de mal. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous ? Et eux, avec une langue très, très confiante, ils ont dit, bah, tu vas faire le meilleur. C'est ça leur réponse, il a dit. Non, on peut faire le mal. Non, on se venge. Mais toi, c'est pas possible, toi, que tu fais ça. Il a dit, tu es un frère. Et tu es le fils d'un frère. Donc, tu ne peux être comme nous. Et il a dit, partez, vous êtes libres. Et lorsqu'il a rassemblé les femmes, il a commencé à aussi donner un discours spécial pour les femmes. Il y avait à l'intérieur des femmes, celle qui a mangé le foie de son oncle, Hamza, Hind. Elle a mangé le foie. Et lui, il a dit avant, si vous prenez Hind, tu es là. Tellement, cette femme, elle a un registre de catastrophe. Elle était à l'intérieur. Elle a dit, vous devez faire. Et lorsqu'il est arrivé, vous ne devez pas tuer vos enfants. Elle répond, on les a élevés et vous les avez tués. Il voulait dire les batailles de l'islam avec les Mécois. Et puis, le prophète a dit, et vous ne devez pas forniquer. Et elle répond, mais l'arabe ne fornique jamais. Pourquoi tu nous dis forniquer? Mais non, on ne le fait pas. Et c'est vrai, dans le temps, cette erreur n'était pas connue auprès des Arabes. Avant l'islam, c'était pas connu. C'est après l'islam que ce comportement a été connu et même très connu. Et à ce moment-là, le prophète lui a dit, oui, il va le faire. Et je sais qui tu es. Tu es Hind. Et à ce moment-là, il a dit, pardon, prophète d'Allah. Il a dit, tu es pardonné. Parmi les comportements moraux les plus importants, ben tout d'abord, as-sidq, la vérité de l'intention, la vérité du langage, la vérité dans les relations. Vous êtes l'ami d'une sœur ou l'ami d'un frère, mais soyez sincère dans cette relation. Vos relations, des fois, durent une journée, deux journées. Des fois, lorsque vous voulez compter vos frères réellement, c'est-à-dire quelqu'un, lorsqu'il est avec vous, votre frère. Si vous voulez savoir qui est réellement mon frère, c'est lorsqu'il est à côté, c'est comme s'il est absent. Tellement il ne s'impose pas sur vous, ne vous agresse pas. Et lorsqu'il est absent, c'est comme s'il est présent. Tellement il a laissé auprès de vous une belle image et un excellent réconfort. Le frère, c'est celui où il n'y a pas de limite entre vous et lui. Ça, c'est la vraie. Un jour, quelqu'un est venu demander la fraternité à Abu Dharr. Il dit, je veux être ton frère. Et Abu Dharr lui a dit les règles de la fraternité. Il lui a dit, d'accord, mais à condition que... Bientôt le Maghreb. Il a dit, dirham et dirhamouk. Mon dirham est ton dirham. Mon dirham est ton dirham. Et l'autre a dit non. Une fraternité qui va aux poches, je ne veux pas d'elle. Et après plusieurs années, il est revenu, il lui a dit, je veux être ton frère. Il a dit, dirhami dirhamouk. Mon dirham est ton dirham. Et l'autre dit, oui, maintenant je peux le faire. Un exemple parmi les exemples. Le prophète Sassam a dit, soyez véridique, parce que avec la vérité, elle vous emmène à la piété. Et vous dites la vérité, vous faites la vérité jusqu'à ce que vous soyez pieux et vous aurez le paradis. Et le mensonge mène à la corruption, et la corruption mène à l'enfer. Parmi aussi les comportements que je souhaite que ce soit auprès de nos frères et de nos sœurs, c'est at-tawarru' ani shubuhat, c'est-à-dire éviter les lieux des doutes. Tout lieu qui peut semer le doute, tout lieu qui peut vous taxer de tel ou tel comportement, va éviter-les. C'est-à-dire un lieu où il y a des points d'interrogation, ben il vaut mieux les éviter. Nos savants ont dit, celui qui va dans les lieux de doute, il ne critique que sa personne si les gens doutent de lui. Donc à vous d'éviter tout le lieu, tout lieu où il y a un doute, ou tout moment, ou compagnie, où elle est douteuse. Parmi aussi les comportements recommandables, c'est Rattul Bassa, c'est ce regard, c'est le contrôle de vos regards. L'essentiel des erreurs des hommes et des femmes, c'est à travers le regard. La majorité du feu vient de ce regard. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur de ce corps, il a dit « Wa kulli mu'minina yaghuddu min absarihim » dit aux croyants de contrôler de rabaisser le regard. Et dit aux croyantes aussi de rabaisser le regard. C'est pour ça que si certains savants ont interdit la mixité, c'est justement parce qu'ils ont peur du regard. C'est pour ça aussi, dans nos réunions, aussi nous devons les maîtriser dans le respect. S'il n'y a plus de contrôle de ces assistances, il ne faut plus les faire. Ça c'est la base, parce que la faiblesse est humaine, et des fois malheureusement, je me rappelle à Fribourg, un jour on m'a invité à faire une conférence, c'était à 8h, et entre 6h à 8h, ils ont fait des récitations islamiques, et j'arrive comme ça avant l'heure, et je trouve quelqu'un en train de réciter, on dit des chansons islamiques, je dis c'est ça islamique. Il dit mais c'est quoi la discothèque islamique? C'est quoi? Quelle est la différence entre ça et ça? Lui il chantait et les hommes et les femmes dansaient ensemble. On dit que ça c'était une conférence islamique. C'est complètement la bêtise de certains de nos frères. Parmi aussi les comportements à respecter, c'est la langue. La langue et la langue et la langue. Celui qui ne contrôle pas la langue, contrôle pas sa langue, c'est celui qui a le maximum de péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La langue, c'est la fourche des péchés. Chaque matin, votre corps s'adresse à votre langue et il lui dit, préserve-nous auprès d'Allah. Grâce à toi, on est au paradis, ou à cause de toi, on va à l'enfer. Parmi aussi, j'ai dit seulement des places concernant la morale. Parmi aussi les obligations que vous devez, c'est par rapport à votre famille. Par rapport à votre famille, ben vous devez, la piété filiale, vous la connaissez, le comportement filial que vous devez à l'égard de vos parents, vous les connaissez, ben vous ne pouvez être un croyant sincère et vous êtes mauvais ou mauvaise avec vos parents. Tout ce que vous faites ne sera jamais accepté ni récompensé tant que vous n'êtes pas à la hauteur avec vos parents. Vous adorez Allah et vous ne respectez pas vos parents, ben Allah est en colère. Il a dit la satisfaction d'Allah est conditionnée par la satisfaction des parents. Un jour, quelqu'un a voulu faire le jihad, faire le combat. pour la gloire du chemin d'Allah. Et le prophète Hassan a dit, t'as laissé ta mère à qui? Il a dit, je l'ai laissé en train de pleurer. Il a dit, va, va faire du jihad auprès de ta mère. Tu la laisses comme ça abandonnée? Va. Ben, essayez de faire le maximum que vous pouvez par rapport à vos parents. Dernière obligation, c'est agir pour la religion. Je ne sais pas est-ce que j'aurai le temps nécessaire pour vous dire qu'avec la foi, avec l'adoration, avec la morale, avec votre relation avec votre famille, ben vous devez, l'essentiel de tout ça, c'est que vous devez être quelqu'un d'actif dans le chemin de l'islam. Travailler pour cette religion, agir pour cette religion, a été compris par les premiers comme appartenir même à l'islam. Être musulman, pour eux, était cette équation. Musulman, c'est celui qui travaille pour l'islam. Celui qui ne fait pas pour l'islam, pour eux, ce n'est pas musulman. Et ils n'attendaient pas des années pour le faire. Dès le départ, être musulman, c'est travailler pour l'islam. C'est pour ça, on est étonné. Pour certains, ils sont dans l'islam depuis des années et des années, ils sont complètement inutiles. Ils n'ont rien fait, rien apporté. Absolument rien. On dirait qu'ils ont le cœur qui est complètement mort. Absolument rien. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Il y a certains qui, avant l'islam, ils étaient très actifs. Très, très actifs. Et lorsqu'ils se convertissent à l'islam, ben, c'est la mort. Ils étaient soit des sportifs, soit des ceci, soit des cela. Et dès qu'ils sont musulmans, ils sont complètement écrasés. Ils ont pris leur coin et se sont complètement enveloppés sur eux-mêmes. Et elle est où cette activité? Tout est perdu. Mais c'est le contraire qu'il faut faire. Un jour, Abtofail, pour dire que faire pour l'islam, c'est réellement appartenir à l'islam. Abtofail, quelqu'un arrive à la Mecque, et avant d'arriver à la Mecque, les notables mecquois lui disent, écoute, évite d'écouter le message de Mohammed, parce que c'est un sorcier. Si tu vas l'écouter, tu seras ensorcelé. Il dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, débrouille-toi. Il a dit, j'ai cherché du coton et je l'ai enfoncé dans mes oreilles. Et il n'a rien entendu. Il a fait le premier tour. Avant la fin du premier tour, il a entendu quelque chose. Il a refait le deuxième. Avant la fin du deuxième, il a entendu la même chose. La troisième, il a entendu la même voix. Puis il a dit, malheur à toi, Abtofail, t'es quelqu'un de sage. C'est quoi ça? T'as rien entendu durant tout le tour. Et juste à ce moment-là, il y a cette voix qui t'écrase et qui s'infiltre dans le tympan de tes oreilles. Il s'est tourné, il a dit, qui es-tu? Il dit, je suis Mohammed. Ah, toi l'imposteur, le menteur, que les mecs m'ont dit, non, non, c'est moi le prophète d'Allah. Et c'est pour ça que tu as entendu la parole d'Allah. Il a dit, oui, c'est vrai. Il a enlevé le coton, totalement, il a dit, dis-moi ce que tu as. Et le prophète lui a rapporté, en quelques minutes, l'islam. Quelques minutes. Et puis il a fini son tawaf. Il est revenu vers le prophète Hassan. Il a dit, prophète d'Allah, l'ignorance s'est propagée dans ma tribu et la fornication. Demande à ce que Allah guide ma tribu. Et le prophète a prié. Il a dit, demande Allah à ce qu'il me donne une preuve. Et Allah et le prophète a demandé, Seigneur Allah, donne à Tufail une preuve. Et il est parti. Et la preuve qu'il a eue, c'est une lampe. Je dis facilement, une lampe. C'était une lumière entre ses yeux. Ici, lumière. C'est comme la lampe des mineurs, quand ça rentre les yeux. Et avant d'entrer dans son village, il dit, peut-être ils vont voir cette blancheur, ils vont croire que c'est une maladie. Et il a demandé directement à Allah. Il a dit, Seigneur Allah, fais que ça soit dans ma main. Et cette lumière a changé de place. Au lieu du front, il était dans sa main. Et elle a commencé à parler de l'islam. Et lorsqu'ils ont demandé la preuve, il a dit, voilà la preuve. Il a sorti sa lumière. Il a dit, cette lumière, c'est le prophète qui a prié Allah de me la donner. Voilà. Ils ont vu une lumière qui se dégageait de sa main. La moitié de la tribu s'est convertie. Imaginez, la moitié. Quelle réussite. Il n'était pas satisfait. Il est retourné chez le prophète, à la Mecque, plusieurs centaines de kilomètres. Il a dit, la moitié s'est convertie. L'autre a refusé. Prophète d'Allah, demande à Allah à ce que l'autre moitié qui a refusé soit complètement détruite. Comme ça, on va vivre tranquillement entre nous. Et le prophète Sassam a dit, Seigneur Allah, guide l'autre moitié qui n'a pas cru. Il dit, retourne chez ta tribu. Et réessaie une nouvelle fois. Il réessaie une nouvelle fois. Et à la fin, toute la tribu s'est convertie à l'islam. Toute, sans aucune exception. Faire agir pour l'islam, ce n'est pas seulement une partie de votre vie. Au moment où vous êtes ceci, au moment où vous êtes jeune, au moment... C'est tout le temps, jusqu'à ce que Allah arrête votre vie. Ja'far, cousin du prophète, alayhi salatu wasalam, au début de l'islam, à l'année 5 de l'islam, ils n'ont pas pu vivre à la Mecque. Il a dit, vous pouvez émigrer. Ils pouvaient émigrer en Éthiopie. Ils sont partis, 70 personnes. Ils sont restés plusieurs années. Et lorsqu'ils arrivent à Médine, ils arrivent à l'année 6 de Médine. Imaginez combien d'années sont restés là-bas. Ils arrivent à l'année 6, supposé au mois de mars, et au mois d'avril, 4 semaines après leur arrivée, le prophète lui dit, vous devez partir au nord, parce que les Byzantins veulent nous agresser. Et cette armée sera dirigée par qui? Par qui? Par le chef du groupe qui était en Éthiopie, Ja'far. Il était éloigné de la Mecque, éloigné de sa famille durant plusieurs années. Et il arrive à Médine. Il reste auprès de sa famille 4 semaines. Et le prophète l'envoie une nouvelle fois. Il n'a pas dit, moi j'ai fait l'essentiel. Il est parti. Et la première... Le premier qui est tombé dans le champ de l'honneur, c'était Ja'far. Il a coupé la main droite, il a eu peur pour le drapeau de l'islam tombe, il l'a pris par la main gauche. On lui coupe la main gauche, il a retenu le drapeau par ce qui lui reste de ses épaules. Et lorsque cette armée est retournée, le prophète Hassan a dit, Ja'far At-Tayyar, celui qui vole. Il a dit, pourquoi t'as dit celui qui vole? Il a dit, j'ai vu Allah lui a donné 2 ailes. Il vole au paradis avec 2 ailes. Et lorsqu'on a fait le deuil, après l'enterrement, on a vu, le prophète Sassou a visité toutes les maisons. Toutes les maisons, il y avait un deuil, il y avait des gens qui pleuraient. Et lorsqu'il s'est approché de celle de Ja'far, il n'y avait aucune personne qui pleure. Il n'y avait que sa femme seule, la pauvre. Pourquoi? Parce que il n'a pas fait de famille. Il était très très loin. Il n'avait laissé rien. Et il est seul. Et c'est à ce moment-là que le prophète alayhi salatu wasalam, a eu beaucoup de peine. Il a dit, Ja'far n'a pas de pleurs. N'a pas de personne qui lui pleure. Qui pleure sa mort. Et c'était la grande tristesse lorsqu'on a su que cette personne, Ja'far, a tout donné et n'a rien reçu. Absolument rien. Lisez l'histoire de Nuh lorsqu'il parlait de sa façon de vivre avec sa communauté. Il a dit et la nuit et le jour et ceci et cela et ainsi de suite. Travailler pour l'islam ne demande pas d'être très qualifié, d'être un hyper imam, d'être un grand savant. Non, selon vos possibilités, selon vos moyens. Et le Coran nous a donné l'histoire de cet oiseau, Al-Hudhud. Vous connaissez cet oiseau? C'est le petit oiseau de Suleyman, de Salomon. Est-ce que vous le connaissez? Lisez l'histoire de cet oiseau. Il traverse le Yémen et il a vu un peuple en train d'adorer le soleil. Et il s'est révolté. Il est venu vers le prophète et il a dit, mais pourquoi ils adorent? Et ainsi de suite. Il s'est mis en colère. Pourquoi un peuple n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala? Vous devez trouver votre place dans le champ du travail, dans l'action. J'aimerais bien que tout ce qui peut faire quelque chose peut le faire. Un jour, dans la bataille de Al-Ahzab, les groupes, Allah a donné la réussite grâce à une seule personne. Une seule personne a donné la réussite aux musulmans. Une seule, pas plus. Une seule. Mais pour vous dire, ben vous aussi, vous pouvez faire. C'est pour ça que toute personne qui a une idée, qui a un projet, qui peut apporter quelque chose à cette communauté, ben il n'a qu'à le faire. Mais la question, ce n'est pas seulement apporter les idées, mais aussi les protéger et les défendre et les vivre, mais seulement donner les idées. Moi j'ai une idée, j'ai un projet, ben faites ceci. Non, viens le faire avec nous. Ben c'est ça qui nous manque. Et la dernière chose que je souhaite tirer votre attention, c'est l'avenir. C'est que vous devez tout le temps croire, même si aujourd'hui on vit dans une période difficile, mais vous devez croire que l'avenir sera meilleur. Vous devez tout le temps propager l'espoir. Le désespoir, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Et on ne doit jamais le connaître. Même dans la pire des difficultés, ben vous devez tout le temps avoir ce comportement positif. Tout le temps. Un jour, quelqu'un est venu, et le prophète, alayhi salam, était assis sur le dos de la Kaaba, et quelqu'un est venu. Il a dit, tu vois pas, toi tu dors, et tu vois pas où nous sommes, dans le malheur, dans la souffrance, la Mecque nous fait, regarde, Bilal, qu'est-ce qu'on lui a fait? Regarde, tu ne peux pas demander à Allah pour qu'il nous aide. À ce moment-là, le prophète Sassoum s'est fâché, il a dit, Wallah, Allah va donner la réussite à cette religion jusqu'à ce que une femme peut traverser du Yémen jusqu'à Oman, seule, sans avoir peur que d'Allah, et le loup contre son troupeau. Et il avait tout le temps, cette qualité de le dire, demain ce sera meilleur. Ils étaient à Médine, et Médine faisait quoi à l'époque? Faisait quelques kilomètres. Et le pouvoir du prophète, alayhi salam, était très limité. Et lorsqu'il voulait faire le pèlerinage, il traçait les limites du pèlerinage. Et il a dit, pour les gens d'Irak, ils ont un point, la frontière, c'est Dat al-Irq. Al-Irq, à l'époque, était une terre mage. Était un peuple qui adorait les étoiles. Donc comment il a tracé une frontière à un peuple qui n'était pas encore croyant? Il a dit, pour les Syriens et les Libanais, c'est telle frontière. Et à cette période, il était des Byzantins. Il a dit, pour l'Égypte, il y a tel point. Et à cette période, ils étaient des Coptes. Et ainsi de suite. Et lui, il traçait la carte du monde. Et le plus étonnant, c'est celui qui était avec lui. Ceux qui étaient avec lui, ils n'ont pas posé de questions. Ils n'ont pas dit que l'Irak n'est pas musulman. Ils n'ont pas dit que Byzance n'est pas islamique. Pour eux, c'était quelque chose de qui va se concrétiser il y a quelques temps. C'est pour ça que le prophète alayhi salam a dit un jour que Byzance va être conquise. Et les compagnons du prophète alayhi salam, tellement ils avaient confiance à cette prophétie qu'ils étaient allés spécialement pour la conquérir, mais seulement Byzance n'était conquise que 7 siècles par la suite. Mais les premiers compagnons étaient enterrés à la porte d'Istanbul. Parce qu'ils croyaient que ça va être aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Byzance, qui est aujourd'hui Istanbul, n'était conquise qu'après, bon, peut-être 6492. C'était la période, à vous de croire, oui, c'était à peu près 7 siècles. 7 siècles, pour vous dire. Et nous avons un hadith qui dit, Dieu m'a montré la terre. Et cette religion va toucher ce que Allah m'a montré. C'est pour ça, pour nous, un jour, toute la terre va être touchée par une, par cet islam, ou une partie de cette terre va être touchée par, par, par l'islam, et que demain, demain va être certainement, va être meilleur. Même si on est dans la difficulté. Et ça, c'est quelque chose de personnel. Vous êtes dans la pauvreté, ben vous devez dire ça va changer. Vous êtes sans travail, ben ça va changer. Et ainsi de suite, ce comportement, c'est-à-dire positif, demain sera meilleur, ben c'est l'essentiel même du croyant. Allah a dit, innahu la yay'asu min rahillah illa al-qawmul kafirun, c'est seul des mécréants qui doutent de l'espoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup. Et barakallahu fikum. Je vous répète un peu l'essentiel. Je vous ai dit tout d'abord, votre appartenance à l'islam est basée tout d'abord sur une foi et sur une adoration, sur une moralité, une relation avec votre famille et aussi l'activité que vous devez apporter à cet islam, c'est-à-dire travailler et faire pour l'islam. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته